Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 17-19, le magazine Selayla Jebor. Un plaisir de vous retrouver dans votre rendez-vous de l'actualité. Deux heures de décryptage et d'analyse et de reportage en compagnie de nos collègues journalistes de la rédaction. Et aujourd'hui, nous célébrons une date mémorable, le 28 octobre 1962, l'anniversaire du recouvrement de l'indépendance de la radio et de la télévision, une étape fondatrice qui a permis à l'Algérie de retrouver sa voix et de rapprocher l'information et la culture de chaque citoyen. Pour illustrer ce rôle essentiel de la radio de proximité, nous suivrons le reportage du jour avec Sami Alloun au cœur de la radio Soumem. Et dans l'instant santé, focus sur un fléau qui touche nos routes, les accidents de la circulation entre blessures graves et gestes de prévention. Hassan Chemesh a suivi les spécialistes du service chirurgie orthopédique de l'hôpital de Ben Aknoun qui appellent à la vigilance. Il y aura de l'économie avec Nabila Hussein qui s'intéresse à la modernisation du secteur agricole au cœur d'une grande conférence nationale à Alger et direction Luanda où se tient la troisième édition du sommet sur le financement du développement des infrastructures, un rendez-vous majeur pour discuter de l'avenir économique du continent. Et sur la scène internationale, zoom sur la déclaration du Premier ministre canadien. Malim Abdo revient sur cette annonce concernant l'application du mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahou si ce dernier se rendait sur son territoire. Une décision qui relance le débat sur l'influence réelle des mandats de la Cour pénale internationale. Et dans l'actualité culturelle, nous reviendrons 63 ans après le recouvrement de la souveraineté nationale sur les médias audiovisuels et la RTA avec Hanan Seissi dans un entretien avec Rabia Hamimi pour parler de cette étape historique. Toute cette actualité, c'est dans le magazine, c'est en votre compagnie et c'est jusqu'à 19h. Et on le disait, le 28 octobre 1962, une date gravée dans la mémoire nationale, il y a 63 ans, jour pour jour, la souveraineté nationale sur les médias audiovisuels est enfin rétablie, radio et télévision passent sous contrôle algérien. Sidi Ali Fares revient à travers des documents d'archives sur cette date symbolique avec ceux qui ont relevé le défi.
Octobre 1962, indépendante depuis deux mois, l'Algérie n'a toujours pas récupéré sa télévision et sa radio, mais les choses bougent. À l'extérieur, le premier gouvernement de l'Algérie libre est sur pied et son ministre de l'Information à pied d'œuvre. Et là, le dernier mur du colonialisme allait très bientôt s'effondrer. Monsieur Mohamed Hadj Hammou.
Le 28 septembre 62, le gouvernement a été investi. Et aussitôt investi, d'abord il fallait algérianiser le ministère de l'Information n'existait pas. J'ai organisé mon ministère et ensuite je me suis occupé de la radio-télévision. Avant cela, j'avais convoqué Larouati, qui était responsable technique de la radio-télévision algérienne. Je lui ai dit, est-ce que tu peux la faire marcher? Il m'a dit, pas de problème. Donc j'ai décidé de prendre la radio-télévision. J'ai décidé d'aller voir si Mohamed Khedde, qui était secrétaire général du bureau politique chargé de l'information, des finances et des affaires étrangères, j'ai décidé de le voir. Je dis voilà, il faut prendre la télévision. Il dit bon, on va voir Boumediene. Boumediene était à l'époque ministre de la Défense nationale. Boumediene me dit bon, tu auras demain un détachement de l'ANP. Et ce détachement était dirigé par le capitaine Mohamed Abdelrani. J'ai installé ensuite Issam Saoudi comme responsable. C'était parce que je voulais algérianiser et devant l'obstination et le refus systématique et des autorités françaises, j'avais décidé de mon propre gré, de ma propre volonté, de prendre la radio-télévision algérienne. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, après avoir pris la radio, qu'on a décidé d'enlever le drapeau français et de mettre le drapeau algérien. Maintenant, je vais vous dire une chose. La radio-télévision algérienne, je l'ai prise dans un but non pas exclusivement politique, mais aussi culturel, parce que je voulais que l'Algérie soit algérienne. C'était une décision. La télévision et la radio, comme l'information, comme toute information d'ailleurs d'un pays, c'est un domaine de souveraineté.
Ayant abandonné malgré eux la radio aux Algériens, les Français gardaient néanmoins le doux espoir qu'incompétents, les Algériens leur feraient appel pour faire tourner la machine. Espoir vite dissipé, au fil des jours, Abdrahman Rouati, responsable de la technique.
Il a fallu négocier le départ des Français, ça n'a pas été facile. Ils sont quand même partis vers midi ou une heure, mais en laissant les installations en marche. J'en témoigne, puisque j'étais le responsable, officiellement désigné. Il y avait une équipe dirigée par Issa Messoudi, qui a été directeur général de la radiodiffusion algérienne. Les speakers, des journalistes algériens, tout était en marche. Car les Français étaient convaincus que nous ne serions pas en mesure de faire fonctionner la radio et la télévision. J'avais pris la précaution de mettre en place à peu près 25 techniciens issus du corps de transmission, un peu partout, y compris à Constantine, à Bellabès, etc. Lorsqu'ils sont partis, le petit tracteur me dit, en me disant, l'ingénieur Morin, me disant, monsieur, constatez que tout fonctionne, ça veut dire que nous n'avons rien saboté. Car ils étaient persuadés que des négociations allaient avoir lieu et qu'ils seraient priés de revenir dans des conditions que je ne connais pas. Voilà, je suppose, leur calcul. Je crois qu'ils n'ont jamais rien compris.
100% algérien, d'accord. Toutefois, cela n'empêche pas que certains Français n'ont pas quitté l'enceinte de la RTA, les mains dans les poches. Écoutons à ce sujet M. Kadr Esrer, ancien animateur.
Quand les Français sont partis, je me souviens des choses, parce que les Français, c'était une surprise pour eux. Il y avait même à la caisse, les paris de mission et tout ça, et le 28 octobre, quand les gens sont assemblés ici, il apparaît une valise pleine de l'argent et vous scrivez pour sortir de... Il y avait un commissaire de police à l'époque qui s'appelle Azoui. J'étais vers lui. Je lui ai dit, voilà, c'est un type qui a de l'argent dans la police. Alors, il y a un peu. Le 28 octobre. Après, c'est un grand jour pour nous. C'était une fête.
Une radio 100% algérienne, c'est possible. Elle fonctionne, ce qui permet à l'auditoire de la chaîne d'entendre à travers les transistors Mouloud Chikhaoui le annoncer.
Saguir, radio de télévision, Toural Tazerit, Miaf Lmiya. الساقير نحيه الاعلام تمر في النار تنيقي وخامن الراديو وقدر كجدي ان كابيل جدي aujourd'hui la radio télévision est devenue algérienne à 100% aujourd'hui les travailleurs de la radio de la télévision ont salué le drapeau algérien qui flotte désormais au-dessus de l'immeuble 21 boulevard des Martyrs.
La radio télévision algérienne est née.
Et depuis 1962, la radio a évolué suivant le contexte et les attentes du public. Elle s'est déployée notamment à travers les stations locales, des chaînes qui sont au plus près du citoyen via le transistor et d'autres supports. C'est un reportage de Samia Alloun à la radio Souma.
Des médias de proximité couvrent une grande partie de l'actualité, rapportant les dernières informations directement du terrain ou accompagnant des campagnes de sensibilisation qui visent à prévenir ou à attirer l'attention des citoyens sur des phénomènes au cœur de la société. Tahar Abdellaoui, directeur de Radio Soumam.
En plus de la symbolique, ici aussi, pour nous rappeler chaque fois que nous sommes des acteurs ici, dans cette société, ne sont pas un trait d'union, mais nous sommes des traits d'union à travers les programmes, les émissions qu'on prépare et qu'on diffuse à la longueur de la journée, grâce à la radio Soumam, on est en fait la voix de la population. On arrive quand même à transmettre le message entre le demandeur et le responsable, l'élu, qui est là à servir le citoyen. Et quand on parle du citoyen, on commence par l'élève, l'étudiant, le travailleur, l'artisan, l'artiste, tout le monde. On est là pour améliorer son quotidien et être sa voix.
Radio Soumam ne se limite pas qu'à l'information et à l'actualité. Des émissions variées et des thématiques sont spécialement dédiées à l'art, à la culture, à la science et au sport. Un programme écouté aussi bien par les jeunes que par les moins jeunes, selon les thématiques proposées.
Quand je conduis, j'ai l'habitude d'allumer Radio Soumam. Moi, je suis un accoutumé de la Radio Soumam parce que je suis un enseignant à l'université.
Personnellement, mon père écoute souvent les chaînes de la radio. Souvent en voiture, mes parents, plus fréquents que nous, les jeunes. Oui, des fois. J'étais avec lui en voiture.
Un certain temps, je suivais la politique intérieure, extérieure. Par la suite, je m'intéresse au sujet d'actualité, ce qui se passe surtout au niveau de notre wilaya qui est Bidjaya.
Elle fait partie de celles et ceux qui ont accompagné la chaîne depuis ses tout débuts, donnant vie à des concepts d'émissions et autres thématiques variées au sein de Radio Soumam. Hayat Saimi est animatrice d'exception. Elle fait partie de l'équipe depuis l'inauguration de la chaîne en 1996.
À travers les années, on a toujours essayé d'être le plus proche possible du citoyen, écouter ses préoccupations, avoir ce qui l'intéresse, aussi de transmettre des messages concernant la vie quotidienne, ce qui intéresse le citoyen au quotidien.
Des médias de proximité appelés également à relever de nouveaux défis, tels que le renforcement de la présence sur les réseaux sociaux, pour avoir une meilleure visibilité du contenu développé en ligne, des émissions et actuellement l'actualité pour rapprocher l'information du citoyen.
Et on continue de vous accompagner en musique dans le magazine. C'est jusqu'à 19h. Kerima Naït, Jazair.
حلا ننسى وقصة بلادنا الجزائر واقفة في كل زمان هنفدي وهبشي على راية جدادنا الله أكبر على كل لسان احفظ يا عالم هذا الموال غير هذا الوردة ما تاخدهاش مهما تخطط ومهما تحبتناه الدم اللي سقاها ما يتنساش كتبوا يا نساء كتبوا يا رجال كل خطوة لكل شاهد من كل جيال ولا كذب تغيير ولا نسيان بلادي نحب نعيش فيها بسلام كل اللي تفلي درب عن رسالنا جيل الحرية ماشي القدام وحلا ننسى قصة بلادنا الجزائر وقتها في كل زمان هنبدأ وهبشي على راية الله أكبر على كل لسان قولوا عليها ولادات الشجعان طارق بن زياد عربي بغداد كاهين ولا الله خطمة نسمى كيما عبد القادر أكبر مثال مش حال كيما هما حرب العديان باش يقعوا لما في الإسلام اسمهم لازم يكون في كل زمان وجميع اللي ماتوا من جلب ضياف كل اللي يتفلي درب عن رسالنا جيل الحرية ماشي القدار محلى ننسى وقصة بلادنا الجزائر وقفة في كل زمان هنبدأ وهبشي على راية أجدادنا
Et on retrouve tout de suite l'instant santé.
L'instant santé avec Hassan Chemmache.
Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
Gros plan sur un fléau qui ne faiblit pas les accidents de la route. Chaque jour, les services de chirurgie orthopédique accueillent des blessés graves, victimes de comportements dangereux au volant. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et appellent à une prise de conscience collective pour davantage de prudence. Hassan Chemej s'est rendu au service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de Ben Aknoun, où il a rencontré le professeur Mustapha Yaqoubi, chef de service.
Professeur Mustapha Yaqoubi, bonjour.
Bonjour, monsieur Chemej, mahba bek.
Merci beaucoup. Vous êtes chef de service chirurgie orthopédique au niveau de l'hôpital de Ben Aknoun. Professeur, votre service est très sollicité. On dit que vous recevez ici énormément d'accidentés de la route.
Oui, oui, absolument. Première raison, l'hôpital est situé dans un axe routier. Donc, avec l'autoroute de Ben Aknoun, donc, il y a des accidents. Il y a aussi cette notion qu'on voit depuis quelques années, ces accidents-là de moto, des deux roues, que l'on voit. Et sachez que c'est hyper dangereux, l'accident
de moto,
oui, c'est multiplié par 10. On est à l'extérieur, on est exposé à des traumatismes multiples et graves.
Il reste handicapé à vie, j'imagine.
Oui, ça arrive où il y a le décès d'abord. C'est mortel.
S'il ne meurt pas, il est handicapé.
Il est handicapé à vie, oui, absolument. Et rajoutant à ça, c'est que ces accidents, souvent, on voit ces jeunes, hein, qui ne dépassent pas les 23 ans, hein, on a remarqué entre 17 et 23 ans, et ne portent jamais de protection. Rien, ni casque, ni tenue, ni même tout ce qui est en rapport avec le véhicule, c'est-à-dire avec la moto. Parfois la moto n'a pas de feu, n'a pas de normes, quoi. Tout ça, ça engendre ce genre de choses, de ces jeunes qui sont même, je veux dire, pas parfois, peut-être assez souvent, sous l'effet des stupéfiants. Ça nous arrive même ne pas pouvoir les opérer le jour de l'accident parce qu'ils sont sous l'effet
des psychotropes,
de drogue aussi. Ouais. Ça inquiète, vraiment ça inquiète. Il faut qu'on trouve quand même une solution à y remédier, à éviter à ce genre d'accident et moi que je peux même très facilement qualifier de terrorisme routier.
Vous tirez la sonnette d'alarme, professeur ?
Oui, absolument. C'est terrible. Il faut passer à la sanction. Maintenant, il faut appliquer le code de la route. On ne peut pas comme ça utiliser comme ça, des véhicules sans respect du code de la route. Parce que non seulement le danger est sur notre personne, là, il y a aussi le danger pour les autres. On peut provoquer des accidents. Il y a des gens qui sont parfaits dans leur conduite, etc. Ils peuvent être victimes de ces chauffards, de ces terroristes routiers.
Alors, professeur, ici, puisque vous le dites, vous êtes très sollicité, submergé même. Comment vous arrivez à répondre à cette forte demande ?
Oui, la difficulté. Parfois, on arrête même l'activité de la chirurgie froide. Parfois, on arrête le programme opératoire qui est donc fait en fin de semaine, jeudi pour la semaine, et pour un peu éponger ce nombre important de patients. Heureusement, on a des chirurgiens très compétents et des jeunes chirurgiens qui font tout pour opérer pendant la garde, pendant les 24 heures. Et là, ça éponge. Autre chose, on fait aussi de l'ambulatoire. On est dans l'obligation parfois de faire sortir des patients. Certains qu'on devait peut-être laisser 4-5 jours, on les fait sortir au bout de 48 heures. Et là, c'est pour répondre un peu à cette demande importante. Tout ça, c'est de la pression sur le service, la pression sur les chirurgiens aussi qui sont des êtres humains. Vous voyez, vous venez à 2h du matin, vous allez être impressionné. Vous voyez, 2h du matin, c'est énorme comme nombre de consultants.
Professeur Mustapha Yaqoubi, merci beaucoup.
Merci, monsieur.
Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
La suite du magazine en musique et juste après on se retrouvera pour le journal économique. de la musique et de l'actualité pour vous accompagner. On passe tout de suite au journal économique avec Nabila Hussein.
Économie.
La modernisation du secteur agricole au cœur d'une grande conférence nationale à Alger.
Et oui, les travaux ont ouvert hier à Alger avec un message clair, transformer le modèle économique agricole du pays. Le ministre Yassine El Mehdi Welid a insisté sur l'importance d'introduire les technologies numériques, les biotechnologies et les financements innovants pour booster la productivité. L'objectif affiché est d'améliorer le rendement agricole national pour arriver à 40 quintaux à l'hectare d'ici 5 ans et de positionner l'Algérie comme un acteur exportateur à moyen terme. Cette modernisation vise aussi à réduire la dépendance alimentaire du pays, à renforcer la sécurité économique nationale. Les ateliers se poursuivent encore aujourd'hui. Ils visent à repenser les pratiques du monde agricole. On écoute à ce propos Rabah Lahmar, expert en agroécologie.
Il n'y a pas que la production, il y a tout ce qu'il y a avant la production et après la production. Dans tout le processus, il y a des étapes, et donc ces étapes-là, effectivement, sont très importantes. Et je pense que l'objectif des ateliers, c'est d'essayer de lever les contraintes actuelles. Et la priorité, à mon avis, c'est à l'amont. Il faut qu'on sache exactement. C'est pas que des filières, c'est des systèmes, en fait. Et ces systèmes, il faut qu'on les pense dans leur globalité. Un système, c'est, on fait rentrer une chose, on la fait tourner, puis on fait sortir quelque chose. Et donc, le processus, ça va du début à la fin.
Et du côté de l'industrie pharmaceutique, le gouvernement continue à investir dans la relance de la production locale.
Oui, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Wassim Kouidri, s'est rendu à Tizi Ouzou pour annoncer plusieurs mesures à fort impact économique. Parmi elles, des facilitations administratives pour encourager les investisseurs dans la fabrication de dispositifs médicaux et de médicaments. Le ministre a aussi confirmé le soutien financier de 3,5 milliards de dinars destinés à la relance de la société publique Unième, avec à la clé la création de nouveaux emplois et la reprise des exportations pharmaceutiques. Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie de souveraineté sanitaire et industrielle du pays.
L'Afrique s'apprête à débattre de son avenir économique à travers le financement de ses grandes infrastructures. Direction Luanda pour le troisième sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique.
Et l'Algérie sera représentée par le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, qui participe à ce sommet stratégique consacré au financement des grands projets d'infrastructures en Afrique. L'objectif, combler un déficit annuel estimé à plus de 100 milliards de dollars, mobiliser jusqu'à 1300 milliards de dollars d'investissement dans les secteurs du transport, de l'énergie et du numérique. Une initiative qui rejoint la vision de l'Algérie engagée dans le développement de ses infrastructures économiques et énergétiques afin de renforcer sa compétitivité régionale et son rôle dans la dynamique africaine.
Et on se tourne vers les marchés mondiaux, les cours du pétrole évoluent et l'impact se fait déjà ressentir.
Oui, ce matin, le baril de Brent Crude Oil s'échange autour de 65,59 dollars, tandis que le baril de West Texas Intermediate est à 61,26 dollars. Deux dynamiques sur le marché. D'un côté, l'optimisme autour d'un possible accord commercial entre les États-Unis et la Chine, ce qui soutient les anticipations de demande. De l'autre, le groupe OPEC Plus envisage une hausse modeste de sa production dès décembre, ce qui met une pression baissière sur les cours. En conséquence, le marché reste dans une posture d'équilibre fragile entre l'offre qui s'assouplit et une demande encore incertaine.
Et c'était l'essentiel de l'actualité économique avec Nabila Hussein. Le magazine continue jusqu'à 19h en musique avec Day El Bahja.
واجبني هيا مرسول وغزالي راه طال الحال يولي ونقيم الطبول في بلاد سيدي عبد الرحمن سلامي هديتو ليها عليها وماليها سلامي هديتو ليها عليها
Et place à l'actualité internationale dans le magazine.
Zoom sur le monde.
Focus sur la déclaration du Premier ministre canadien. Malim Abdo revient sur cette annonce concernant l'application du mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahou si ce dernier se rendait sur son territoire. Une décision qui relance le débat sur l'influence réelle des mandats de la Cour pénale internationale.
Monsieur Reed Brody, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Cela va faire plus de 40 ans que vous défendez inlassablement les victimes. En 1984, vous quittez votre poste de substitut du procureur de New York pour enquêter au Nicaragua sur les crimes commis par les contre-révolutionnaires, expliquez-vous. Vous participez ensuite à l'extradition d'Augusto Pinochet, puis vous réalisez de nombreuses missions pour l'ONU, pour Amnesty International, et Human Rights Watch. Vous en deviendrez d'ailleurs le numéro 2. Vous êtes surnommé le chasseur de dictateurs. Cette quête de défense, aujourd'hui, a-t-elle un nouvel élan, Monsieur Reed Brody?
Évidemment, on est dans un moment où on parle beaucoup du droit international, du droit pénal international. Le procureur de la Cour pénale internationale demandait l'inculpation du premier ministre d'Israël, de son ministre de la Défense. On peut dire que la justice avance partout dans le monde. En même temps, il faut constater que la plupart des dirigeants qui commettent des atrocités, des massacres,
oui,
s'en tirent avec une impunité. On n'a pas encore capturé les personnes que je viens de mentionner, mais dans la plupart des cas, malheureusement, même s'il y a un engagement chaque fois plus ferme de la communauté internationale, on constate que finalement, il y a très peu de condamnations.
Quand des mandats d'arrêt ont été diligentés contre Benjamin Netanyahou et son 10 ministres de la Défense, des responsables politiques ont indiqué que la justice internationale était faite pour les Africains et pour la Russie. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a un subjectivisme et que quand il s'agit d'Afrique, eh bien, le chiffre des poursuites judiciaires augmente et que l'inverse n'est pas aussi juste que cela? Monsieur Reed Brody.
Ben, tout à fait. Enfin, moi, depuis que j'y travaille, je déplore cette justice à géométrie variable, ce qui était la nouveauté, en fait, de la demande du procureur pour des mandats qui n'a pas été évacué jusqu'ici.
Mm-hmm.
C'était que c'était la première fois que la Cour pénale internationale avait demandé, le procureur avait demandé des mandats contre un dirigeant occidental ou pro-occidental. Depuis Nuremberg, les instruments de la justice internationale ont été utilisés presque exclusivement, soit contre des ennemis, des adversaires vaincus comme à Nuremberg ou à Tokyo,
oui,
soit contre des personnes sans pouvoir comme mm-hmm. des anciens dirigeants africains ou des rebelles africains, soit contre des ennemis de l'Occident, comme Vladimir Poutine ou Milosevic. Je pense qu'avec le demande du procureur pour des mandats contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, on a vraiment cité une brèche dans cette politique de double standard. On verra par la suite, évidemment, comme vous avez évoqué, il y a beaucoup de pays occidentaux qui se sont élevés contre ces mandats, mais bon, on va voir ce qu'il en advient.
Monsieur Reed Brody, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, Monsieur Brody.
C'est moi qui vous remercie.
Zoom sur le monde.
La suite en musique avec Sia, Cheap Thrills. La première partie du magazine continue avec le point route dans quelques instants.
L'inforoute.
Au 021 48 15 15.
Makeba makes my body dance for you. Ooh. and right. Ooh, my kebab, my kebab, my kebella. Can I get a ooh, my kebab, makes my body dance for ya. Ooh, my kebab, my kebab, my kebella. Can I get a ooh, my kebab, makes my body dance for ya. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. I need a smile, you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, my kebab, my kebab, my kebella.
Le point route au 021-48-15-15, le point sur la circulation avec Jawida, notre première auditrice. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Ça va très bien. Vous êtes où, Jawida?
Eh bien, je suis sur l'autoroute Est-Ouest.
Sérieusement?
Ouais.
Et vous allez où exactement?
Je vais à Bébersen.
Ah, d'accord. Ok. Et ça voilà. Se passe comment sur la route? C'est fluide?
C'est infernal.
D'accord. Donc, c'est vraiment bouchonné. Ça coince.
C'est bouchonné, oui. Exactement.
Et donc, c'est au niveau de Babersen que ça coince ou bien avant?
Non, bien avant. Est-Ouest.
D'accord. Très
au
bien.
Au niveau de l'aéroport.
D'accord. Donc, voilà. C'est le point noir à cette heure-ci. C'est tous les jours pareil, je pense. C'est quotidiennement.
Oui, exactement.
Voilà, donc le trafic est dense de ce côté-là. Alors, pour tous les automobilistes qui nous écoutent, prenez votre mal en patience, Jawida.
Merci.
Merci à vous de nous avoir appelés. Au revoir. 021-48-15-15. Voilà, donc le trafic est dense, surtout aux entrées de la capitale. Encore une fois, prenez votre mal en patience et si vous êtes dans les bouchons, eh ben courage, on est ensemble jusqu'à 19h au 021-48-15-15. Maya est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir, je vous appelle de l'Axe Babersen d'Ouera.
Très bien.
C'est un cauchemar, mais je voudrais surtout attirer votre attention sur le grand carrefour, enfin carrefour, oui,
qui est
du côté de l'Opéra, entre Oulette Fayette,
Chelaga,
vers Suidania, il est impératif qu'ils installent des feux tricolores.
Oui.
Je vous jure que les gens se bagarrent, en viennent aux mains tous les matins et tous les soirs.
Oui, j'imagine, il faut mettre en avant.
Il n'y a pas d'autre solution, Il n'y aura pas d'autre solution que de mettre des feux tricolores parce qu'il y a six grands axes qui confluent tous vers un rond-point pour rentrer vers une toute petite bretelle, c'est très mal fait, vers une toute petite bretelle d'autoroute. Donc, à moins de mettre des feux tricolores, il va y avoir des crimes là, incessamment.
Oui, j'espère pas, en tout cas, qu'on en arrivera là.
Si.
Mais c'est bien
si,
de...
Les gens sont à cran, on est quand même très sanguins, les Algériens.
Oui.
Là, je vous jure que ça urge.
Oui.
Et il n'y a pas d'autre solution par des feux tricolores.
C'est vrai. En tout cas, Maya, votre message est passé. Et bon retour chez vous. On continue. C'est bien aussi de mentionner s'il y a des bouchons ou si c'est fluide. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et nous, on continue à recevoir vos messages aussi et à interagir avec vous. Alors, ça coince au niveau de l'axe de Oulette Fayette. Et prudence aussi, si vous êtes sur la route, roulez doucement si c'est fluide. Nous, on continue de vous accompagner jusqu'à 19h avec bientôt la deuxième partie du magazine. Il y aura de la rubrique TIC avec les dames et nacelles et les nouvelles technologies et du sport avec la rubrique des sports et l'équipe qui viendra nous accompagner. Et il y aura aussi Hanan Saïsi dans un entretien avec Hamimi Rabia pour parler de cette étape historique 63 ans après le recouvrement de la souveraineté nationale sur les médias audiovisuels et la RTA.
Alicia, dance with me.
Et vous retrouvez tout de suite le sommaire en compagnie de Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir.
Leïla Djibril, bonsoir. Bonsoir à tous. Et au sommaire du 19h, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs en Algérie. Le soutien constant de l'Algérie au processus de développement global en Afrique réaffirmé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans une allocution prononcée en son nom par son représentant, le président du Conseil des Nations, à l'ouverture à Luanda, en Angola, des travaux du 3e sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique. Il y a 63 ans, l'Algérie indépendante recouvrait sa souveraineté sur la télévision, à la radio-télévision, un 28 octobre marqué par des hommages aux hommes et aux femmes de cette étape historique et pour afficher les ambitions pour le futur, notamment la radio qui passe au numérique, comme annoncé par le directeur général de la Radio Nationale lors de la cérémonie organisée au siège de la radio en présence du ministre de la Communication et du conseiller du président de la République en charge de la direction générale de la communication à la présidence de la République. De nombreuses recommandations couronnent ce soir la conférence nationale de modernisation du secteur de l'agriculture entre numérisation et mobilisation des ressources hydriques. On fera le point dans le 19h. Tous les hôpitaux du pays de plus de 200 lits disposeront d'accélérateurs de radiothérapie en plus de centres anti-cancer. Le ministre de la Santé l'a annoncé aujourd'hui. C'était lors de la rencontre sur le registre national du cancer. À l'étranger, Netanyahou décide ce soir de frapper immédiatement Gaza, violant ainsi l'accord de cessez-le-feu. Cela se passe alors que les exactions de l'armée sioniste ont continué contre les Palestiniens, y compris en Cisjordanie occupée. Nouvelle manifestation et grève au Maroc annoncée pour demain dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Un vaste mouvement dans la continuité de la colère exprimée par la rue marocaine contre la corruption et la malvie. Veille du Salon international du livre d'Alger, 28e édition. Elle ouvrira ses portes demain à la foire des pins maritimes d'Alger, une participation record, la Mauritanie invitée d'honneur. Et puis en sport football, la sélection nationale féminine qualifiée pour la CAN 2026, elle a battu aujourd'hui les Camerounaises à Douala par 1-0. Et à 18h03, place à présent à l'actualité météo. C'est avec vous, Leïla Djibril.
Bonsoir, les prévisions pour cette nuit sur les régions nord, le littoral, l'intérieur et les hauts plateaux. Le ciel sera globalement dégagé mais se voilera progressivement sur l'ouest et le centre-ouest à partir de la soirée. Les vents seront modérés de secteur est 15 à 30 km/h près des côtes et localement nord-ouest 20 à 30 km/h sur l'est en matinée, puis s'orientant est à sud-est sur le centre-est en fin de soirée. Sur les autres régions, les vents seront variables de 15 à 25 km/h s'orientant sud de 20 à 30 km/h parfois 40 km/h sur les hauts plateaux. Dans les régions sahariennes, le temps restera dégagé à partiellement voilé, devenant souvent couvert sur le Bécharoua. En fin de soirée, les vents seront d'est à nord-est, 20 à 30 km/h sur le sud des oasis, le Nord-Sahara et le Sahara central, avec des vents variables de 15 à 25 km/h. Les températures pour ce soir, il fera 16 degrés à Alger, 18 à Oran et à Chlef, 9 à Betna, 19 à Béjaïa, 11 degrés à Annaba et Constantine, 22 degrés à Ngzem, 16 degrés à Ardeya, 19 degrés à Ourgla et Hassim Saoud, 22 degrés à Timimoun et 9 degrés à Port Beji Mokhtar.
نحب نغني نحب نسيبارتي نحب بلادك نحب الواني نحب نديفيلي نحب الالجيري نحب المصغر في شاف فيا ويقول لي نود نحب الكرة في الشقة وندير الهود نحب الوان بلادي وجمهور كله ينادي حيا الجزائر في بلالجيري
بلادي نحب الواني نحب ندي فيني نحب الجيري
Le groupe Freeclane, N'hab Bladi, dans cette deuxième partie du magazine en votre compagnie, chers auditeurs. Et on commence avec l'actualité sportive en compagnie de Nassima Djaout. Bonsoir Nassima.
Bonsoir, vous avez compris la chanson. Hein,
oui. Oui. On commence avec le football, Nassima. La sélection nationale féminine qualifiée à la CAN 2026 en battant le Cameroun 1-0 lors du match retour du deuxième et dernier tour préliminaire de la CAN.
Oui, ça s'est passé cet après-midi. Le match vient de se terminer et l'équipe nationale féminine est allée se qualifier au Cameroun, s'il vous plaît. Eh bien oui, elles se sont imposées 1-0, but signé Marine Daffer à la 25e minute de jeu avant la pause. Et donc l'équipe algérienne Marine Daffer qui avait déjà inscrit un but lors du match aller qui s'était joué jeudi dernier au stade Miloud Hedfid Oran, 2-1 pour l'équipe nationale féminine algérienne. Marine Daffer avait inscrit le deuxième but. Et aujourd'hui, eh bien, grâce à cette double victoire contre le Cameroun, eh bien la sélection algérienne est qualifiée pour la CAN 2026 qui aura lieu entre le mois de mars et le mois d'avril prochain pour être précise. Et donc ça sera du 17 mars au 3 avril 2026 et je rappelle également que avant 2025, depuis 2010, jamais l'Algérie n'a réussi à battre le Cameroun. Il y a eu 4 rencontres entre le Cameroun et l'Algérie et 4 victoires pour le Cameroun. 10 buts marqués par les Camerounaises face à l'Algérie. Un seul but marqué donc contre les Camerounaises.
C'est vraiment historique. Hein.
C'est historique, ouais. Bien sûr. C'est un événement. Et donc l'équipe nationale est aujourd'hui se qualifie à la Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle également que l'équipe algérienne qui était présente lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2024 et qui avait atteint les quarts de finale battus par les Ghanéennes au tir au but, eh bien, elles sont de retour, elles reviennent, c'est vraiment de la pérennité dans le résultat. Elles vont également être présentes à la CAN 2026. Ce n'est pas le cas du Cameroun, le Cameroun qui était absent lors de la CAN 2024 et qui sera également absent lors de la CAN 2026.
Et on passe au volleyball avec les volleyeuses du Nasriya Club de Bjaïa qui ont enchaîné cet après-midi avec une deuxième victoire. C'était face aux Syriennes d'El Roued lors de la troisième journée de la Coupe arabe des clubs qui se poursuit à Tunis.
Ça s'est passé également cet après-midi. Donc, deux bonnes nouvelles pour les équipes algériennes particulièrement féminines.
Oui.
Puisque les volleyeuses du Nasriya se sont imposées, comme vous l'avez dit, face à l'équipe syrienne d'El Roued 3-7-0. De cette très large match facile pour le NCB, le détenteur du doublé la saison dernière, le Nasriya Club de Béjaïa qui avait gagné la Coupe d'Algérie et le championnat, s'est baladé face aux Syriennes 25-16, 25-17, 25-12. Je rappelle que c'est la deuxième victoire des protégés de Hafid Moula, l'entraîneur de cette équipe du Nasriya, l'équipe algérienne qui avait battu lors de la première journée le club africain 3-7-1, s'était malheureusement incliné hier face à l'Espérance de Tunis au tie-break 3-7-2. Et donc l'équipe algérienne du Nasriya Club de Béjaïa occupe la deuxième place avec 4 points derrière Carthage de Tunisie qui totalise 6 points. Et donc on va revenir sur la victoire aujourd'hui, face aux Syriennes avec l'entraîneur du Nasriya Club de Béjaïa, Hafid Moula, qui a fait lui match facile, donc il a fait tourner l'équipe, hein, il a fait jouer les joueuses habituellement sur le banc.
Ce troisième match face à l'équipe syrienne s'est avéré beaucoup plus abordable pour nous. Nous avons profité pour faire tourner l'effectif. Tout le monde a joué. On a essayé de faire récupérer un petit peu les titulaires. Donc on a accordé du repos à certains titulaires pour y donner davantage du temps de jeu à nos remplaçantes. L'équipe a montré une belle solidarité et a su gérer la rencontre avec beaucoup de détermination et de sérieux. Une maîtrise de début jusqu'à la fin du match. Donc cette victoire nous a permis d'ajouter 3 points précieux à notre compteur, totalisant désormais 7 points en 3 matchs. Un bilan très encourageant. L'objectif est maintenant de bien gérer les 3 prochaines rencontres afin d'assurer une place sur le podium, Inch'Allah. Et pourquoi pas, on va faire une surprise et jouer la finale et remporter le titre. On est toujours optimiste.
Voilà, donc c'était l'entraîneur du Nasriya Club de Béjaïa, Hafid Moula. Je rappelle que demain, les filles de Béjaïa vont être de repos. Ça va être d'ailleurs pour toutes les pour toutes les équipes, hein, puisque demain, journée de repos pour toutes les équipes qui prennent part à cette Coupe arabe. Jeudi, le Nasriya Club de Béjaïa rencontrera l'équipe koweïtienne à 14h, Selwa de Sabah. Il restera encore un match samedi contre Fatayet du Koweït, également à 14h. Et puis, ça sera le samedi 1er novembre et puis le 2 novembre ça sera face à le rival direct, hein, le concurrent direct au titre, ça sera face à Carthage de Tunisie. On n'en est pas encore là, on va savourer la victoire puisque c'est une bonne victoire à prendre et l'équipe donc du Nasriya va prendre du repos. C'est pas un repos, c'est un repos actif pour après. Donc
enchaîner. Et bien mérité d'ailleurs.
Bien mérité. J'ai vu le match, elles avaient vraiment dominé l'adversaire syrien. Et donc demain, ça sera repos. Et reprise des compétitions, ça sera jeudi.
Et on passe au football avec la suite de la 9e journée de la Ligue 1 Mobilis. 3 matchs sont programmés demain mercredi.
Et à 16h, il y aura le big match entre le leader, la JS Saoura et la JS Kabylie. Un match qui se jouera au stade du 20 août 55 de Bchar. C'est la JS Saoura qui reçoit la JSK. La JSK qui est sur un nuage, hein, qui est d'ailleurs sur une série de victoires. Eh bien, ce sera un match intéressant à voir. Et la JS Saoura qui va tenter de conserver sa première place puisque il y a la pression d'Herbo, l'UMCO. Et donc, la JS Saoura tentera de gagner demain, mais la JSK... Ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. La JSK qui est en superbe forme, qualifiée pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. Dans le même temps, hier toujours, à partir de 17h, l'ASO Chlif qui reçoit le Shabab de Blouzded. Le Shabab de Blouzded également qui a des matchs en retard et qui occupe donc la 12e place avec seulement 6 matchs, donc 2 matchs en retard. Et le Shabab également qualifié pour la phase des groupes, cette fois-ci de la Coupe de la CAF. Également à 18h, 18h, il y aura demain un classique du championnat, l'Entente de Sétif qui reçoit l'USM Alger au stade 8 mai 45 de Sétif. L'Entente de Sétif qui est vraiment en très très mauvaise posture, avec une 12e place mais avec un plus faible goal average, a joué déjà 7 matchs, et donc il restera encore un match en retard. Et l'USM Alger, elle, qui avait perdu son match aller en Coupe de la CAF et a réussi à renverser la vapeur et gagner par 3-0 pour, face à l'équipe ivoirienne d'Afad, et qui a réussi donc à se qualifier également à la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Ça sera une équipe de l'USM Alger qui attendait ce déclic, et bien le déclic est revenu, et on va assister à un très beau match demain entre l'Entente de Sétif et l'USM Alger à partir de 18h. Ces trois rencontres seront en direct sur les ondes d'AG Chaîne 3. Dernier match de cette 9e journée de la Ligue 1, ça sera jeudi, USM Khanchla qui accueillera le Mouloudia d'Alger à 15h. Je rappelle par contre que cette journée avait débuté samedi avec la victoire du Mouloudia d'Oran Albayet de 2-0. Le CS Constantine avait battu l'Olympique Arbo de 2-1. Et le MBR Rouisset a été tenu en échec par Ben Aknou 0-0. Et puis dimanche, on a noté donc la première victoire du Paradou Athletic Club qui a gagné face à l'Espérance de Mostaganem 1-0, mais qui a laissé la dernière place à Al Bayad. Ça sera également un match à suivre. Ça sera jeudi entre le Paradou Athletic Club et l'Espérance de Mostaganem. Donc il restera donc les matchs de demain. Et jeudi, il y aura l'USM Khanchla contre le Mouloudia d'Alger. Voilà, je rectifie. Et puis, ceux qui attendent le derby algérois entre le Chabab de Blouzdad et l'USM Alger, comptant pour la 11e journée du championnat de Ligue Amobilis, il se jouera le samedi 8 novembre prochain, selon le calendrier de la Ligue nationale de football, lors de cette 11e journée. Mais avant cela, il y aura la 10e. Pour le derby, ça sera samedi 8 novembre. On ne connaît pas encore l'horaire.
Alors, on termine avec du tennis, Nassima, et Abdelhaq Hamr El-Ain qui a été nommé au poste de directeur technique national à la Fédération algérienne de tennis.
L'ancien international algérien qui a eu une longue carrière, eh bien, il est DTN, directeur technique national de la Fédération algérienne de tennis, déjà désigné en avril, dernier capitaine de l'équipe nationale senior en Coupe Davis. Hamr El-Ain, véritable figure du tennis algérien, détient le record national des titres de champion d'Algérie avec 19 sacres à son actif. C'est pour vous dire qu'il a eu une longue carrière. Il demeure également le joueur algérien le plus capé dans l'histoire de la prestigieuse Coupe Davis, avec 81 matchs disputés en simple et en double. Par ailleurs, la Fédération algérienne de tennis a également procédé à la nomination de Riyad Ansar, conseiller en sport, spécialiste en tennis, au poste de directeur des équipes nationales, autrement dit de DEN. Le tennis à l'étranger, on va en parler puisqu'on parle de tennis, avec l'Italie. L'Italien Jannik Sinner, numéro 2 mondial, qui a remporté le tournoi ATP de 500 de Vienne, en battant pour la deuxième fois cette saison l'Allemand Alexander Zverev, numéro 3 mondial, sur le score de 3-6, 6-3, 7-5 en finale. Et puis la Suissesse Belinda Bencic, qui a remporté le WTA 500 de Tokyo, deuxième titre de sa carrière sur le circuit, en battant la Tchèque Linda Noskova 6-2, 6-3. Il s'agit également du deuxième trophée de sa saison après Abu Dhabi en février dernier.
Merci beaucoup Nassima Djaout. On vous retrouvera dans le journal de 19h pour plus d'actualités sportives. Matcon, don't worry, dans le magazine, on continue avec l'actualité culturelle. Ans après le recouvrement de la souveraineté nationale sur les médias audiovisuels et la RTA, on se remémore cette étape cruciale qui a permis notamment d'instaurer l'identité nationale dans les programmes de la radio et la télévision algérienne. C'est la décolonisation médiatique à laquelle ont pris part jeunes Algériens, des techniciens, des employés, dont Rabia Hamimi. Il parle de cette étape historique à Hanan Seissi dans cet entretien.
Monsieur Hamimi Rabia, vous êtes un des doyens de la RTA, Radio et Télévision Algérienne. Nous célébrons le 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur ces médias audiovisuels. Tout d'abord, quelle a été la mission des Algériens qui ont pris les commandes de la RTA le 28 octobre 1962 ?
La première mission de la radio et de la télévision, devenue algérienne le 28 octobre 1962, était essentiellement d'assurer la continuité du service de la radio et de la télévision. Ça veut dire qu'il fallait absolument qu'au niveau de l'auditeur pour la radio, que la radio continue à fonctionner, et au niveau du téléspectateur de la télévision, que la télévision continue également à fonctionner. Ça, c'est la première mission. Cette mission a été conduite dans des difficultés extrêmes, en particulier sur le plan technique. Et là, il me plaît de dire que les techniciens auxquels je rends hommage ont relevé le défi pour assurer à la fois la diffusion et la transmission et la production en radio et en télévision en direction du public algérien, les auditeurs et téléspectateurs, en tenant compte en particulier du fait que les techniciens et le restant également du personnel lié à l'antenne radio et à l'antenne télévision étaient français. Et donc, dès les premiers jours de l'OAS, beaucoup qui étaient plus ou moins proches d'elle ont rejoint la mère patrie, sans rester quelques-uns qui étaient du reste soit des libéraux, soit sensibles à la cause algérienne. Il y avait aussi, en nombre, disons, acceptable, des techniciens au niveau de la radio qui pouvaient pas facilement la faire marcher, mais infiniment moins à la télévision. La télévision était quasiment exploitée par du personnel français.
Pourquoi cette décision de recouvrer la souveraineté nationale sur l'audiovisuel ?
Le bureau politique, et en particulier Sy Mohamed Khedr, s'était plaint de l'insuffisante couverture à partir du 5 juillet, donc à partir de l'indépendance, l'insuffisante couverture informative de la radio et de la télévision des activités des autorités algériennes, donc indépendantes. et aussi de la teneur de certains programmes de télévision. Le 28 octobre 1962 a été l'occasion s'est donc imposée à nous. Moi, j'y étais dans ma petitesse pour un petit emploi, disons subalterne à l'époque, était d'assurer la production, l'enregistrement, la diffusion et la transmission des programmes radio et télévision.
Alors, comment faire lorsqu'on ne dispose pas de tout le savoir-faire dans ce domaine?
Il n'y avait pas de problème majeur en ce qui concerne la radio, du fait qu'il y avait une assez forte présence d'Algériens au niveau du travail radiophonique. La radio a posé peu de problèmes. Il suffisait simplement de continuer à travailler. Éventuellement, le petit problème qui se serait posé, c'est au niveau de la transmission. Mais dès le 28 octobre 1962, les autorités algériennes, et en particulier Abdelrahman Rouati, qui a joué un rôle essentiel dans le démarrage de la radio et de la télévision algérienne, avec toute une équipe autour de lui, avait installé déjà, renforcé les équipes au niveau des émetteurs. Et donc, pour la radio, la chose a été relativement facilitée. Par contre, la télévision, ça a été un peu plus complexe. Et on a pris une partie du personnel de la radio, du personnel algérien, pour renforcer les 3 ou 4 personnes qui se trouvaient à la vidéo. Et c'est ainsi que la télévision, le 28 octobre 1962, a commencé. Et tous, en particulier du côté de l'ancienne puissance coloniale, on attendait à ce que, en particulier la télévision, ne fonctionne pas. Ce 28 octobre 1962, le défi a été relevé. Et à 20h, il y a eu le journal télévisé en langue arabe qui avait été présenté par le regretté Atman Hamer, qui était journaliste, et l'édition en français par Mabrouk Al-Almi. Donc le défi a été relevé.
À partir de là, il fallait produire des programmes algériens. Comment ça s'est passé?
La grille des programmes en radio et en télévision s'est progressivement algérianisée. Il faut avoir à l'esprit que au niveau de la radio et même au niveau de la télévision, il n'y avait pas de diffusion H24. La radio ouvrait le matin, s'arrêtait autour de 8h, 8h30. Ensuite, elle reprenait à midi. Elle s'arrêtait autour de 15h et puis elle reprenait en soirée pour se terminer aux environs de 11h. Et la télévision, idem, avec un volume plus restreint en diffusion, parce qu'il n'y avait pas cette capacité à la fois de produire, de diffuser et d'émettre. J'ajoute une chose, c'est que au niveau de la couverture, même en radio, la couverture était faible. Elle ne concernait que l'Algérie du Nord. Pour l'Algérie du Sud, le Sahara, c'était les ondes courtes. Et les ondes courtes, la puissance d'émetteur faisait en sorte que le signal radio ne parvenait pas ou parvenait dans de mauvaises conditions aux auditeurs au sud du pays. Pour la télévision, c'est beaucoup plus complexe parce que la télévision a été conçue du temps de la colonisation comme une télévision locale. Il y avait une télévision locale à Alger qui couvrait Alger et les environs immédiats d'Alger, c'est-à-dire là où il y a une forte présence de la population coloniale. Et idem pour Oran, c'était une télévision locale, et idem également pour Constantine. Donc le défi était de faire en sorte que le programme d'Alger produit pour la télévision d'Alger soit également diffusé à Oran et Constantine. On a trouvé la parade en faisant produire des émissions par Oran et Constantine pour un petit peu alimenter l'antenne. Et progressivement, enfin tout à fait au début, on a lancé l'un des plus grands chantiers, me semble-t-il, de la télévision, celui de construire un réseau hertzien national couvrant toute l'Algérie du Nord. Cela a été fait sous la houlette de Cheikh Abdelrahman Rouati et une équipe d'ingénieurs pilotée par le regretté Belhassen Zorouki, qui a été également notre directeur général de la télévision, fin 1969, disons en 1970. Et c'est ainsi que la télévision couvrait toute l'Algérie du Nord.
Qu'en est-il pour le restant de l'Algérie, à savoir l'ensemble du territoire national?
À partir de 1975-1976, pour la couverture des régions du Sahara, algérien bien entendu, la RTA utilisait le satellite à des fins de diffusion domestique. Je rappelle à cet égard que l'Algérie a été le 4e pays au monde à avoir utiliser cette diffusion par satellite après les États-Unis, le Canada et l'Union soviétique. Entre-temps, bien entendu, dans cette période qui va de, disons, de fin 62 à 70, on a considérablement augmenté les capacités de production de la radio et de la télévision pour vraiment remplir la grille des programmes en produits algériens de tout genre. J'ai des éléments de mémoire assez généraux sur le contenu des programmes, mais tous ces programmes s'articulaient autour du triptyque information, culture et divertissement. Bon, c'est un petit peu la bible de toutes les grilles de programmes des radios et télévisions.
Et quelle a été la place de la culture ?
Il est clair que les programmes de la radio et de télévision s'inscrivaient dans cette perspective. C'était même une espèce de sacerdoce pour la radio et la télévision que de s'inscrire dans la récupération de notre culture, de notre identité, de notre mémoire, de notre histoire. Et donc, tous les genres confondus de la grille des programmes exprimaient cet objectif majeur qui était fondamental, à telle enseigne que, qu'il me soit permis de dire que la radio et la télévision ont pu, à beaucoup d'égards, exprimer la voix de l'Algérie officielle, tant au plan de l'information que celui de la culture et du divertissement en tant qu'expression culturelle. Il y avait de très grandes émissions de divertissement pour s'approprier notre patrimoine artistique et notre fond musical. Il y a eu des productions de très grande qualité sur le plan artistique, et il n'y a qu'à voir à l'occasion des commémorations tout ce florilège de chansons qui expriment le patrimoine de l'Algérie dans toute sa profondeur. Il ne faut pas se limiter simplement à Alger en tant que centre de rayonnement. Toutes les formes d'expression, plurielles du reste, de l'Algérie profonde, se retrouvaient dans les programmes de la radio et de la télévision.
Il y a eu également du travail du côté des archives.
Une radio et une télévision ne peuvent pas travailler sans avoir pour mission de sauvegarder ce qu'elle fait au quotidien et qui deviennent aussitôt après utilisées comme une archive de première importance. Et donc, il y avait un fonds archivistique de la radio à travers ce qu'on appelait à l'époque la discothèque, où il y a eu des employés, des agents acquis à la notion de conservation, et la même chose au niveau de la télévision. Il y a un trésor au niveau des archives de télévision, il y a un trésor identique au niveau de la radio, avec, il faut le reconnaître, un certain flottement à un certain moment où il n'y avait pas suffisamment de moyens financiers pour permettre à la radio et à la télévision de conserver l'intégralité des produits, ce qu'on appelle les rushs. On a dû les sacrifier au profit de l'essentiel. Voilà, ce problème maintenant est résolu avec la numérisation. Mais il serait bon peut-être que, au niveau des archives, aussi bien radio que la télévision, ça c'est un souhait tout à fait personnel, parce que c'est la mémoire du pays en matière de radio et de télévision, que la chose soit prise sur un plan beaucoup plus scientifique, de mission à la limite sacrée, parce que c'est un petit peu notre mémoire.
La démarche algérienne ne s'est pas limitée au niveau national, il y a eu d'autres initiatives algériennes, cette fois sur le plan régional et continental.
Ce travail que nous avions fait, nous l'avions également proposé dans le cadre maghrébin à l'époque, en créant la Maghrébvision, les trois pays du Maghreb, et ensuite nous avions essayé d'associer la Mauritanie et la Libye, mais malheureusement leurs moyens ne leur permettaient pas. Et la même démarche avait été initiée également en direction de l'Afrique, où la RTA, puis ensuite la télévision et la radio après leur restructuration, ont fait des choses merveilleuses en direction de l'Afrique et aussi du monde arabe. Je n'en veux pour preuve que le Centre arabe d'échange de news et de programmes par satellite pour la région arabe, son siège est à Alger. Et j'en veux également pour preuve que le siège africain du même centre, qu'on appelle Afrovision, est également à Alger. Les deux étant situés à Ouled Fayet et ils sont en travail continu, permanent, quotidien. Et donc, ils échangent des programmes entre les radios et les télévisions. Et ce serait, à mon avis, l'une des missions de la radio et de la télévision, d'utiliser ces programmes et d'être beaucoup plus présent en termes de contenu, de programmes radiophoniques et télévisuels, de contenus africains, pas simplement produits par les Africains, mais à produire au niveau des pays africains.
Monsieur Hmimi Rabia, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes un des doyens de la RTA. Merci encore une fois.
C'était l'entretien de Hanan Saïssi avec Rabia Hmimi. On continue ce magazine jusqu'à 19h avec de la musique.
استعمر في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هالكوه الشجعان
ضحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيي الجزائر حرة ويحيى الشبان تحيي الجزائر حرة رجال ونسوان
تحيي الجزائر حرة رجال ونسوان
نبدأ بسم الله نور القلوب سيمانا صلاة الهدي شفيع ناسي دبن وعدنان
ما هو أكبر سلاح المجاهدين سيادنا تنصر شيش سحر على العدام الفضل الرحمن
اللي استشهد مرحوم واللي عاش يبقى في دمان
قول الله ما بقاش استعمر في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحرب هلكوه الشجاع
ويحيى شعبنا في جاه العدنان
تضل بلادنا بالنصر ديننا
ويحيى شعبنا رجال ونسوان
الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا
نكسر سيف الظلم في الحروب القوى الشجعان
ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبلنا
الجزائر حرة ويحيى الشبان
تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان
تحيا الجزائر حرة ويحيى الشبان
تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان
تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان
C'était le collectif Dzaïr Hamdoulillah avec la suite du programme, du magazine et la rubrique TIC et médias. Et on parle ce soir d'un tournant majeur dans le numérique du quotidien, la fin du support de Windows 10 qui marque la fin d'un chapitre de 15 ans d'usage mondial. Nos ordinateurs deviennent désormais vulnérables et Reda Menassel nous explique les conséquences pour les utilisateurs et les professionnels.
C'est un peu comme un vieux compagnon qu'on s'apprête à quitter. Le 14 octobre 2025, Microsoft a mis un terme définitif au support de Windows 10. Ce système d'exploitation installé sur plus d'un milliard de machines à son apogée ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité. Derrière cette annonce, il y a la mécanique bien huilée de l'obsolescence programmée. Microsoft pousse vers Windows 11 et son architecture plus sécurisée. Le problème, c'est que des milliers d'ordinateurs, souvent modestes, ne peuvent l'accueillir faute de compatibilité matérielle. Résultat, un immense parc d'appareils se retrouve soudainement vulnérable. Alors certains pays parlent déjà d'un déchet numérique de masse. D'autres envisagent des solutions libres pour prolonger la durée de vie de ces machines. Des ONG africaines ou sud-américaines par exemple militent pour l'installation de systèmes alternatifs comme Linux afin d'éviter que des tonnes de matériel parfaitement fonctionnel ne finissent dans les décharges publiques. Dans la course à la modernité, l'innovation ne doit pas oublier la durabilité. Le progrès technologique a un coût écologique, social et parfois moral, on le sait. Windows 10 disparaît, oui, mais les questions qu'il laisse derrière lui vont, elles, continuer à tourner pendant très longtemps. À très vite.
La suite du magazine en musique avec l'Orchestre National de Barbès.
Alger Chant 3, 24 heures sur 24.
Et c'est sur ces belles notes de Rainer Rai qu'on se quitte. C'est la fin de ce magazine. On se retrouvera pour d'autres actualités, pour un autre rendez-vous. Et merci à l'équipe qui m'a accompagnée, à notre réalisateur Ali Lahoussi. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même station.
وعلاش علاش تخاصمنا